Nous y voilà, Afrique Midi, toute l'actualité africaine à 12h30, temps universel, 13h30 ici à Paris. Bonjour Simon Bortembourg.
Bonjour Charlotte, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour une demi-heure avec le journal pour commencer. Et à la une, l'interview hier soir d'Abdelmajid Tebboune à la télévision nationale algérienne. Le chef d'État a tenté de faire baisser la tension au plus haut ces dernières semaines entre Alger et Paris. Emmanuel Macron est mon unique point de repère, a assuré le président algérien que nous entendrons. Il est de retour en Afrique du Sud. L'ambassadeur sud-africain expulsé des États-Unis est arrivé ce matin au Cap. Il a été accueilli, nous le verrons, par une centaine de personnes, principalement issues des rangs de l'ANC. Dans cette édition également, nous serons au Burkina Faso. Le Burkina Faso où le gouvernement dénonce des manipulations après la publication de nouvelles vidéos de massacres de civils. Reportage à suivre également dans Afrique Midi. En Côte d'Ivoire, le pays le plus heureux de l'Afrique de l'Ouest, si l'on en croit le classement dévoilé par l'université britannique d'Oxford. Et puis, du football également à la une, nous reviendrons sur la sixième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Un premier signe d'apaisement dans les tensions entre Alger et Paris. Dans la profonde crise diplomatique que traversent les deux pays, c'est au tour du président algérien Abdelmajid Tebboune de faire un pas. Mon unique point de repère, c'est le président Macron, a déclaré le chef de l'État à l'occasion d'une longue interview accordée à la télévision nationale algérienne hier soir. Abdelmajid Tebboune qui estime donc que le contentieux entre Alger et Paris a été créé de toutes pièces sans pour autant ne jamais citer le ministre français de l'Intérieur. Le président algérien a d'ailleurs ajouté qu'en cas de tension diplomatique, ce sont les ministres des Affaires étrangères qui doivent régler les problèmes.
Je dirais trois mots pour ne pas tomber dans ce brouhaha, ce capharnaüm politique. Nous en garde comme point de repère et unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. Ils travaillent ensemble. Il y a eu, c'est vrai, un moment d'incompréhension, mais il reste le président de la République française. Tous les problèmes doivent se régler avec lui ou avec la personne qu'il délègue à juste titre, dont c'est les prérogatives, à savoir le ministre des Affaires étrangères. C'est deux États indépendants, une puissance européenne, une puissance africaine. Les deux présidents travaillent ensemble. C'est tout. Tout le reste ne nous concerne pas.
Et ce matin, la porte-parole du gouvernement français a salué donc les déclarations du président algérien. Sophie Prima a rappelé qu'il n'y avait pas de tension entre les ministres des deux pays et qu'il était donc essentiel de parler avec Alger pour apaiser les tensions.
Le gouvernement est extrêmement déterminé. Il n'y a pas d'écart de vue. Vous ne pouvez pas trouver de solution avec l'Algérie si vous ne parlez pas à l'Algérie. Il faut donc sortir de cette affaire par le dialogue. Moi, j'ai entendu que le président Tebboune avait fait un petit signe vis-à-vis d'Emmanuel Macron. C'est très bien. Voilà une façon de renouer le dialogue et d'échanger sur les sujets qui sont les sujets sensibles entre les deux présidents, c'est un bon signal.
La porte-parole du gouvernement français, elle s'exprimait ce matin sur les antennes d'Europe 1 CNews. En République démocratique du Congo, l'armée d'y prend acte après le communiqué de l'AFC M23 hier. Le groupe armé soutenu par le Rwanda a annoncé hier donc qu'il se retirerait de la localité de Walike Centre pour, je cite, favoriser un climat propice au dialogue. D'après nos informations recueillies ce matin, ce retrait n'est pour le moment pas encore effectif. Mais alors pourquoi cette annonce hier de l'AFC M23? Deux hypothèses se dégagent, Patient Ligodi.
La première hypothèse, c'est l'ouverture d'une nouvelle fenêtre de dialogue. C'est ce que soutiennent certaines sources proches de l'AFC M23. Un sommet virtuel entre l'UAC et la SADC est annoncé pour la semaine prochaine. Ce sera une occasion de faire avancer la junta régionale sur le cessez-le-feu et un éventuel dialogue politique. De son côté, Thérèse Kayikwamba, chef de la diplomatie congolaise, a affirmé hier que le gouvernement est disposé à discuter. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'une délégation envoyée par Kinshasa s'est rendue en début de semaine à Luanda sur l'invitation de la médiation angolaise. Concernant l'annonce de retrait de Walikale Centre, Thérèse Kayikwamba a déclaré hier que le gouvernement congolais attend de voir si cette déclaration va se traduire en actes concrets. La deuxième hypothèse, c'est une manœuvre stratégique pour gagner du temps. C'est l'option défendue par des sources de l'armée contactées par RFI. Dans les rangs des forces armées congolaises, on reste sceptique. Des sources disent ne pas croire au discours de l'AFC M23. Elles y voient une manœuvre destinée à gagner du temps avant peut-être une tentative de progression vers Kisangani, à environ 400 km de Walikale Centre.
La précision signée Patient Ligodi. L'ambassadeur sud-africain aux États-Unis est de retour au Cap. Washington avait donc ordonné, c'était le 14 mars dernier, aux diplomates de quitter les États-Unis après avoir été déclaré persona non grata par le chef de la diplomatie américaine. Eh bien, ce matin, à l'aéroport international du Cap, où il a atterri, le diplomate a déclaré ne pas avoir de regrets. Valentin Hugues.
En arrivant dans le hall de l'aéroport, Ebrahim Rasoul se fraye un chemin au milieu de la foule. Quelques centaines de personnes, principalement des militants de l'ANC, sont venus soutenir celui qui a été exclu des États-Unis pour avoir qualifié la politique américaine de suprémaciste.
Nous n'avons pas choisi de rentrer chez nous, mais nous rentrons sans regret.
Pas de regret, mais le rappel tout de même que dans un contexte diplomatique tendu entre les deux pays, le rôle d'ambassadeur est particulièrement complexe, même pour le diplomate qui avait déjà été ambassadeur sous la présidence Obama.
Nous aurions préféré rentrer en vous disant que nous avons fait taire les mensonges sur un génocide blanc en Afrique du Sud, que nous avons trouvé des accords commerciaux, mais nous n'y sommes pas parvenus.
Donald Trump a coupé les aides à l'Afrique du Sud, qu'il accuse de maltraiter la minorité blanche avec sa récente loi sur l'expropriation. Dans le viseur américain, on retrouve aussi la plainte sud-africaine contre Israël pour génocide à Gaza devant la Cour internationale de justice.
On ne rentre pas pour dire que nous sommes anti-américains, même après avoir été déclarés persona non grata, car nous continuons de croire en la reconstruction des relations avec les États-Unis.
L'Afrique du Sud n'a pas encore annoncé le nom de son successeur, ni la date de sa prise de fonction. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Au Burkina Faso, le gouvernement dénonce à nouveau des manipulations après la publication de nouvelles vidéos de massacres de civils. Les autorités du Faso assurent que des individus mal intentionnés s'activent et pour le montage donc de vidéos mensongères qui tendraient à accréditer la thèse de massacre ethnique dans le pays. Les vidéos des exactions imputées à des supplétifs de l'armée tournent en tout cas en boucle sur les réseaux sociaux. François Mazet.
Ces nouvelles vidéos montrent des civils escortés par des individus armés vers une destination inconnue. Les personnes âgées et les enfants qui n'arrivent pas à suivre sont menacés avec des armes blanches. D'autres montrent aussi des corps sans vie de civils. Elles sont présentées comme un massacre commis dans la commune de Gayeri, dans la région de l'Est. Dans un communiqué réagissant à ces vidéos, le gouvernement dit déplorer la persistance d'individus mal intentionnés qui s'activent, selon lui, au montage de vidéos mensongères faisant croire à des massacres ethniques au Burkina Faso. Il dénonce une manipulation qui, selon lui, s'inscrirait dans le cadre d'une vaste campagne politico-médiatique de diabolisation et de dénigrement. L'objectif, selon son porte-parole, serait de prêcher la montée des communautarismes et de déclencher des affrontements intercommunautaires. Jeudi, le procureur Blaise Bazier disait avoir ouvert une enquête en vue d'interpeller les auteurs de messages appelant à l'extermination de personnes appartenant à un groupe ethnique au motif que ces personnes seraient des terroristes. Il ne citait pas de groupe ethnique spécifique, mais les populations peules sont souvent visées par des amalgames.
Eux dénonçaient justement ces massacres de civils au Faso. Quatre nouveaux membres du mouvement politique Sens ont été arrêtés, ou plus exactement enlevés. C'est l'organisation politique de Maître Guy Hervé Cam qui l'a indiqué dans un communiqué publié cette nuit. L'avocat et grande figure de la société civile burkinabé est lui toujours emprisonné. Au Bénin, le parti Les Démocrates porte plainte après des interdictions de manifester. Le principal parti d'opposition s'insurge donc contre le pouvoir et dit avoir essuyé plusieurs refus pour tenir des rassemblements et avoir dû se disperser. Les audiences dans le cadre de cette affaire auront lieu vers la fin du mois de mars. Et donc à ce sujet, Jean-Luc Aplogan s'est entretenu à Cotonou avec l'avocat du parti Les Démocrates.
Il s'agit de plaintes en citation directe notifiées aux auteurs supposés de l'infraction. Selon l'avocat, il y a déjà un calendrier pour les audiences, Maître Renaud Agodio.
Les plaintes ont été déjà délaissées depuis une semaine au moins. Les audiences sont prévues pour le 26 et le 28 mars de ce mois.
Les plaintes sont déposées à Natitengu, Djougou, Kandi, Aboumekalavi, Porto Novo et Kobe. Le parti Les Démocrates affirme avoir été empêché dans ces villes de tenir des réunions. Les leaders accusent les élus locaux et la police de les avoir dispersés. Ce samedi, le parti fait n'est encore cas d'un nouvel épisode d'interdiction de rassemblement à Dassa. Il est demandé à tous les partis d'éviter les réunions en lieu ouvert, rappelle le porte-parole du gouvernement. Il poursuit, le week-end dernier, ils ont respecté la prescription et ont pu tenir leur réunion à Matéri. Puis il accuse, là où il y a eu incident, ils ont obtenu l'accord pour une réunion dans un domicile, puis ont voulu la déporter dans la rue. La police les a dispersés sans incident, a-t-il précisé. Plusieurs responsables des démocrates estiment que c'est une persécution, un ciblage faux, répond un membre de l'UPR, soutien de Patrice Talon, qui rapporte que son parti a essuyé récemment une interdiction de rassemblement à Abomey-Calavi. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Une vaste mobilisation pour la lutte contre le VIH en France tout au long du week-end. Le SIDAction recueille des dons pour financer des programmes d'aide aux personnes vivant avec le VIH en France, mais aussi à l'étranger. L'occasion également de sensibiliser à l'importance du dépistage. Valérie Cohen a rencontré Geneviève Grisper, une Ivoirienne âgée de 41 ans. Elle habite en France et elle a découvert il y a 10 ans qu'elle était séropositive.
Quand j'ai récupéré les résultats, ça m'a fait un choc. J'ai fondu en larmes. Ça m'a pris 2 ans pour pouvoir l'accepter. En fait, pourquoi je pleurais autant? Parce que le VIH, il est considéré comme si c'était ta vie qui avait basculé. Puis j'avais aucune information sur le VIH. Je ne savais pas que la médecine avait voulu, on pouvait se marier, on pouvait avoir des enfants bien portants. Du coup, pour moi, c'est mon monde qui s'effondrait. Je me suis tout de suite fait prendre en charge. J'ai été mise sur traitement, trithérapie directe. Hein. J'ai été suivie aussi psychologiquement. Les médecins m'ont beaucoup rassurée. Au bout de 3 mois de traitement, j'ai eu une charge virale indétectable. Quand on a une charge virale indétectable, on ne transmet plus le VIH. Puis j'ai vu que tout était possible. Je pouvais poursuivre mes rêves, je pouvais avoir des enfants. Et en 2017, j'ai accueilli mon premier fils qui est très bien portant. Il n'est pas infecté. J'ai continué, j'ai croisé mon mari, on s'est marié, on a eu un deuxième enfant. Donc voilà, aujourd'hui physiquement je vais super bien, mentalement je vais super bien. Donc il faut très bien prendre les médicaments tous les jours et puis on a une vie normale en fait.
Un témoignage au micro RFI de Valérie Cohen. Du football et place ce dimanche à la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Outre le match entre les deux premiers du groupe D, Eswatini et Maurice, on suivra également le duel entre le Kenya et le Gabon pour le compte du groupe F. À Nairobi, le sélectionneur gabonais, il pourra justement compter sur le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, mais aussi sur la majorité de ses cadres.
Il fallait faire tourner pour voir certains joueurs, parce que sur la journée FIFA, je pense que le match le plus important pour nous, en termes d'agressivité, reste le Kenya. Demain, je pense qu'on devrait voir une équipe un peu plus proche de ce qui se produit habituellement. L'objectif pour nous demain est de ne pas perdre. Gagner est la première option. La deuxième option, on repart ici avec un point.
À Kenya-Gabon, coup d'envoi dans un peu moins de 20 minutes. De son côté, la Côte d'Ivoire affrontera la Gambie. Match prévu demain à Abidjan. La Côte d'Ivoire, où la VAR a été expérimentée sur le terrain de football dans le championnat donc. Les arbitres ont pu commencer à travailler avec le système d'arbitrage vidéo. Un premier match test qui avait lieu jeudi entre un club de Ligue 1 et un club de Ligue 2. Yoann Gourlay.
Vous venez. Sur cette action, Stéphane Naï vérifie une potentielle faute. Après avoir zoomé sur les pieds des joueurs, il est formel.
À peine de touche. Rien.
Dans le camion vidéo, l'arbitre VAR est accompagné d'un assistant et d'un technicien pour scruter la douzaine d'écrans à sa disposition. L'arbitre zoome, dézoome, revient en arrière, revisionne au ralenti les actions litigieuses grâce au matériel qui avait été utilisé lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Les arbitres ont pour mission de vérifier les quatre piliers de la vidéo. S'il y a but, pénalty, carton rouge et si le carton a été donné au bon joueur. Pour Stéphane Naï, ce tout premier match est un moment important pour le foot ivoirien.
Ça apporte un souffle nouveau à l'arbitrage ivoirien parce que ça nous aide dans les prises de décision. C'est sûr que ça va clairement impacter le championnat.
Sur le terrain, le Stella Club d'Adjamé, club de Ligue 1, et la Estanda, club de Ligue 2, s'affrontent en amical. Si durant la première période, Stéphane Naï aura eu peu d'interventions à réaliser, la deuxième période sera riche en rebondissements, quelques litiges, un pénalty obtenu par le Stella Club d'Adjamé grâce à la VAR. Abou Koulibaly, l'arbitre de la rencontre, a apprécié l'aide de la vidéo.
Aujourd'hui, c'est un outil qui arrive chez nous. On ne peut que l'accueillir avec vraiment beaucoup de joie. On espère que ça va diminuer au maximum les contestations.
Après la formation de 30 arbitres et 3 techniciens en début d'année, puis cette expérimentation grandeur nature, la FIFA qui supervisait la rencontre mais qui n'a pas souhaité s'exprimer, doit maintenant valider ou non la technologie pour le championnat ivoirien. Une validation espérée ces prochaines semaines par le corps arbitral. Yoann Gourlet, Abidjan, RFI.
Le football avec ou sans arbitrage vidéo qui participe même au bonheur des Ivoiriens. C'est en tout cas ce qu'on dit à des habitants d'Abidjan à Benoît Almeras, alors que la Côte d'Ivoire serait le pays le plus heureux d'Afrique de l'Ouest. C'est le résultat d'un classement qui vient d'être dévoilé par l'université britannique d'Oxford. Reportage.
Pour cette commerçante, être heureuse, c'est être en couple.
C'est vous qui allez me rendre heureux parce que je suis célibataire.
Donc si je dois dire, c'est l'amour qui vous rend heureuse.
Mais si, c'est l'amour et c'est ton amour là que je veux.
Il y a ceux qui cherchent le bonheur spirituel.
Ce qui me rend heureux d'abord, c'est ma foi religieuse.
Sans oublier le matériel.
Et en second plan, à mon activité aussi qui me rend heureux.
Quand tu luttes et puis tu gagnes un peu quand même. C'est pas qu'on gagne gros, mais c'est un peu comme si tu as une petite récompense.
Et il y a la famille pour Gertrude.
Ce qui me rend heureux, c'est le temps que je passe avec mes enfants, avec mes proches.
Sans oublier la santé, le foot et la fête, Zié Ouattara est sociologue à l'université de Boaké. Le chercheur planche en ce moment sur un indice ivoirien du bien-être. Dans ses enquêtes, la solidarité occupe une place importante.
Ce qui est ressorti, c'est le fait de se sentir vraiment utile dans sa communauté. Savoir que je peux rendre service à mon voisin, on peut même s'emprunter des choses. C'est des éléments comme ça qui sont très structurants dans l'approche du bien-être au niveau des communautés.
Et en plus du vivre ensemble, le chercheur a identifié une douzaine de dimensions du bien-être. Prendre soin de ses proches est un moteur du bonheur. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Le bien-être qui sera également l'objet d'un colloque international du Centre de recherche pour le développement de l'Université de Boaké. Ce sera du 27 au 30 mai prochain.
Afrique Midi, Simon Bourtembourg.
Il est tout juste midi 46 en temps universel, la suite donc d'Afrique Midi avec vos chroniques du dimanche. Et pour commencer, des cartables connectés à l'honneur d'Afrique en marche. Frédéric Gara nous présentera les sacs à dos innovants inventés par l'association We Are the New Africa. À suivre également votre rendez-vous avec votre chronique littéraire du dimanche. Tirthankar Chanda donne la parole à Fabienne Jonka qui nous présente son dernier roman Brown Baby. Et puis dans 10 minutes, la maroquinerie éco-responsable à l'honneur de la chronique 100% création. L'Afrique en marche met donc le cap sur le Togo ce dimanche. Le Togo, où une association a décidé de fabriquer et de distribuer des cartables scolaires et solaires à ses élèves. Des cartables solaires, oui, parce que le système inventé par l'association We Are the New Africa intègre une ampoule alimentée par une batterie qui fonctionne à l'énergie du soleil. Alors lorsque les enfants rentrent chez eux une fois la nuit tombée, ils peuvent donc continuer à lire ou à écrire à la lueur de leur cartable. Frédéric Gara.
L'Afrique en marche.
Applaudissements enthousiastes et distribution de cartables solaires dans une école en banlieue de Lomé. Des cartables dont le concepteur, Akbar, explique aux enfants le fonctionnement. Un sac scolaire muni d'un mini-capteur solaire, d'une lampe et d'un interrupteur. Une idée qui a germé dans l'esprit de cet artiste styliste il y a 6 ans, alors qu'il fabriquait de simples sacoches pour les manuels et les trousses des élèves. Akbar, créateur et responsable de l'association We Are the New Africa.
Je faisais juste des sacs parce que j'avais suivi un reportage dans une localité où les élèves avaient des difficultés à avoir des sacs. Donc, ils prenaient des sacs plastiques. Et lorsque je me suis rendu 2-3 fois dans un village, il y avait la problématique également du manque d'électricité dans la plupart des régions où je distribuais les sacs. Et donc, j'ai eu cette idée. Après, je suis allé sur Internet, j'ai regardé un peu et j'ai pu réussir à faire un sac et à y incorporer un système d'éclairage LED à énergie solaire. Des sacs où, sur lesquels on met des plaques, des capteurs solaires, un interrupteur. Et à l'intérieur, il y a une batterie. Et donc, en journée, lorsque l'élève va à l'école, le sac est exposé au soleil naturellement. Pendant les récréations, les capteurs captent le rayon du soleil pour alimenter la batterie intérieure. Et le soir, l'élève a une source de lumière pour étudier au moins pendant 2 à 3 heures de temps.
3 heures de lecture supplémentaire qui n'ont peut-être l'air de rien, mais depuis 6 ans que ces sacs sont fabriqués et distribués gratuitement, cela produit son petit effet. Les professeurs des écoles constatent en effet une nette amélioration de la progression scolaire des élèves.
Voilà, c'est exactement ça, c'est ce qui moi personnellement me motive, parce que dans la plupart des villages où nous sommes passés, où nous avons fait les opérations, les professeurs ont témoigné. Même dernièrement dans une école, bon, nous on fait souvent C'est comme un peu une sorte de compétition. Les élèves disent, il y a 100% à tel examen, 98%. Et donc, on était allé dans un village où il n'y a jamais eu 100%, mais parce qu'il y avait la source de lumière. Et que, en plus, pour les enfants, c'est ludique de s'amuser avec le sac, d'avoir la lumière et tout. Et donc, ils s'intéressent quand même au cours, ils font des révisions. Et on nous a fait un retour, un témoignage, comme quoi il y a 800%. Et après, toutes les années où le niveau scolaire a augmenté considérablement, quoi. C'était un fait. Et c'est aussi surtout ça qui nous motive à continuer.
Ce travail bénévole de fabrication et de distribution de cartables solaires se fait grâce à l'association d'Akbar et à l'appui financier d'une ONG en France, Educadev. L'un de ses membres togolais a mis en contact Akbar avec l'un des responsables d'Educadev, Jean-Luc Collin.
En rentrant en France, il m'a dit, il faut que tu contactes Akbar, ce type est formidable. Et la suite l'a prouvé, puisque c'est un monsieur extrêmement actif. Il nous a fait un budget et on l'a suivi déjà plusieurs fois depuis 2019. On en est à la quatrième ou cinquième session de fabrication de ces cartables de lumière. On a surtout un grand sentiment de fierté de ces élèves qui du coup disposent en plus d'un mode de transport assez solide et fiable pour trimballer leurs affaires.
Depuis 6 ans, 100 à 200 sacs de lumière sont fabriqués et distribués chaque année dans les classes de villages comme Kebotoé ou Avedje. Le but d'Akbar et de son association est bien sûr de permettre la production plus importante de sacs pour que chaque élève du Togo, manquant de lumière dans son foyer, puisse malgré tout progresser dans ses études.
L'Afrique en marche.
La suite d'Afrique Midi est tout de suite un point sur les principaux titres de l'actualité internationale. Et à la une, en Turquie, les avocats du maire d'Istanbul qui vont faire appel de son incarcération. « Je ne plierai jamais, tout ira bien », promet Ekrem İmamoğlu. L'opposant au régime a été entendu hier par un juge qui a donc décidé de l'incarcérer, notamment pour terrorisme. Le pape François est, lui, rentré au Vatican après 5 semaines à l'hôpital. L'annonce surprise a été faite hier soir par l'équipe médicale du pape. Le dénouement donc d'une hospitalisation, la 4e la plus longue depuis l'élection de François en 2013. Et puis, l'armée israélienne a lancé une offensive ce dimanche sur Rafah. Cette reprise des opérations dans le sud du territoire palestinien a fait plus de 520 morts selon la défense civile de Gaza. Comme tous les dimanches dans Afrique Midi, voilà le moment de se plonger dans la littérature africaine avec vous, Tirtankar Chanda. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
Et ce midi, Tirtankar, vous parlez d'un roman. Ce roman au menu de votre chronique, c'est Brown Baby.
En effet, il s'agit d'un premier roman basé sur un épisode historique peu connu du monde francophone. Auteur de livres et de podcasts sur des sujets divers et variés, Fabienne Janka s'est inspirée de la tragédie des enfants métis abandonnés après la Seconde Guerre mondiale et elle en a fait le sujet d'un premier roman bouleversant et poétique. Fabienne Janka.
Il y a quelques années, c'était en 2017-2018, je travaillais sur un projet de documentaire sur les Cape Colored en Afrique du Sud, donc les métis sud-africains. Et lors de mes recherches, j'ai vu un documentaire sur les Brown Babies. Ce sujet méconnu a été une telle obsession que j'ai voulu donner voix à ces Brown Babies, mais j'ai fait aussi énormément de recherches puisque c'est un roman sur fond historique. Pour moi, le propos étant que on peut vivre la vie qu'on veut, on sera toujours rattrapé par la grande histoire.
Tirtankar, quelle est cette grande histoire dont nous parle Fabienne Janka?
C'est la Seconde Guerre mondiale et ses répercussions. C'est dans ce contexte que se déroule le drame des Brown Babies, soit 7000 enfants métis, nés en Allemagne au lendemain de la guerre. Nés des liaisons très mal vues entre des femmes allemandes et les GI africains-américains affectés en Europe. Sous des pressions sociales et matérielles, nombre de ces enfants sont abandonnés par leur mère, puis placés dans des orphelinats ou adoptés par des familles noires aux États-Unis. La plupart de ces Brown Babies ont découvert leurs origines en devenant adultes. C'est cette histoire tragique d'errance et de quête des origines que donne à lire la réunionnaise Fabienne Janka, mais réimaginée.
Et c'est aussi le cas dans Brown Baby, dont l'action se situe à Paris.
En effet, nous sommes ici dans la France des années 1950, où vient débarquer une famille noire de Harlem. Le père Charlie est trompettiste. Il joue dans des clubs de jazz, mais l'essentiel de l'action de ce roman se déroule plutôt dans l'arrière-cour, où les protagonistes évoluent, entourés d'un petit peuple de prolétaires cosmopolites et solidaires. Or, la solidarité et l'affection des siens n'empêcheront pas Sam, le fils de Charlie, et sa femme Rosa de connaître le drame et le désarroi lorsqu'ils découvrent qu'il est un enfant adopté, abandonné par ses parents biologiques. La quête des origines de Sam constitue le cœur brûlant de ce récit, raconté avec un sens consommé du tragique, rare dans un premier roman.
Pour finir, Tirthankar, donnez-nous trois raisons pour ne pas arrêter ce livre.
Tout d'abord, il faudrait le lire pour découvrir une histoire peu connue qui nous fait plonger dans les abîmes de l'existence humaine. Deuxièmement, il faut lire ce roman pour sa narration ludique, inventive, avec des chapitres intitulés d'après des œuvres d'art, des titres des morceaux de jazz ou encore des titres de livres. Enfin, il faut lire ces pages jalonnées de poésie, dont ces vers qui reviennent hanter le protagoniste à la disparition de son premier amour, Fabienne Jonca.
À une passante. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité, ailleurs, bien loin d'ici. Trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais.
Vous l'avez bien sûr reconnu, c'est Baudelaire, poète de chevet de Fabienne Jonca.
Merci Tirthankar Chanda et Brown Baby par Fabienne Jonca, c'est donc à retrouver aux éditions Atelier des Nomades. La place à 100% création consacrée ce dimanche à la maroquinerie éco-responsable. Anaïs Lefebvre donne vie à des sacs uniques et à des bijoux en cuir et en argent. Des pièces donc créées à la main en petite série et à base de matériaux récupérés et revalorisés. Anaïs Lefebvre parle de son art à Maria Afonso.
Je pourrais pas du tout faire tout le temps la même chose ou faire ce qu'on me demande de faire sans avoir ma part de créativité.
Anaïs Lefebvre, maroquinière.
Ça a commencé avec les surnoms de mes enfants, Malout et Zazouille, et donc MZ Création.
Née dans les Yvelines, en Île-de-France, Anaïs Lefebvre a grandi dans un environnement artistique avec un père architecte et un grand-père artiste peintre. Elle s'oriente vers un baccalauréat littéraire, option art, puis des études de graphisme avant d'intégrer les beaux-arts. Après son diplôme, elle travaille dans la restauration d'œuvres d'art pour des musées, galeries, ainsi qu'une grande maison de luxe. En 2011, sa passion pour le cuir l'amène à fonder sa propre marque, MZ Création, à la démarche éthique. Anaïs Lefebvre utilise des matériaux provenant d'une association qui récupère et valorise les rebuts des maisons de maroquinerie de luxe afin de soutenir une approche durable.
La Réserve des Arts est une association qui collecte les chutes de plein d'entreprises différentes, et notamment dans le cuir. Je travaille avec des mégisseries qui récupèrent eux-mêmes des fins de série de tanneries qui n'ont pas été vendues et qui ont donc une grande diversité de peaux. J'attache beaucoup d'importance à avoir du cuir qui vienne de France ou d'Europe, plutôt France-Italie.
Dans un souci de respect des matières et au-delà de ses créations, la maroquinière propose des restaurations-réparations.
Le fait de restaurer, de réparer, je trouve ça intéressant parce que les gens ont des pièces auxquelles ils tiennent beaucoup et moi je vais leur redonner une seconde vie. Ça me demande une gymnastique intellectuelle complètement différente que la création, ça me stimule. Je fais de la fabrication et j'optimise au maximum ma matière première. Donc je vais utiliser la moindre chute pour faire un bijou, une ceinture, un accessoire. Je fais de la formation et je vends des journées où les gens viennent fabriquer leurs propres sacs. La formation professionnelle où les gens viennent se former chez moi. Les trois grandes lignes me plaisent et font que je suis accomplie.
Aujourd'hui, Anaïs Lefebvre aspire à transmettre sa passion et son approche éco-responsable dans la maroquinerie afin de sensibiliser et d'inspirer la prochaine génération d'artisans.
Je fais déjà des interventions auprès de jeunes publics pour sensibiliser aux métiers d'art. J'aimerais beaucoup travailler avec des étudiants. Je trouve que c'est intéressant pour eux de voir qu'il n'y a pas trop de limites et de leur montrer que ces métiers-là existent encore.
Retrouvez l'univers de MZ Création sur RFI.fr, chronique 100% création, et en podcast sur RFI Pure Radio.
100% Création et Maria Afonso pour refermer cette édition d'Afrique Midi réalisée par Michael Goncalves. Karine Franck était à la rédaction en chef avec Cécile Perriard. Le retour de l'actualité africaine, c'est à 18h30 TU sur RFI. Avant ça, un nouveau journal international en français dans quelques minutes, sauf si vous nous écoutez en Afrique de l'Ouest où vous avez rendez-vous avec l'information en full day. En Afrique lusophone, ce sera donc l'information en portugais. Restez bien à l'écoute.
Santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, plus de 10 millions de nouveaux cas chaque année.
Mardi,
appendicite et péritonite, quelle différence, quel traitement?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Musique du monde, Laurence Alloir.
Lisa Ducasse est l'invitée de la session live pour la sortie de l'album Iléisme. La poétesse et chanteuse mauricienne a trouvé dans la langue française l'écrin idéal pour raconter ses intimités. Elle chante en français, mais en ramenant la créolité dans sa musique et dans son phrasé. Iléisme évoque à la fois les gens qui parlent d'eux à la troisième personne et l'exil aux îles et ses archipels.
Musique du monde, Laurence Alloir.
Tout à l'heure, à partir de 20h10. RFI.